RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Dans un quart d'heure, l'un d'entre vous sera avec nous, tiré au sort, et il aura gagné son séjour de sensation à l'Europa Park. L'Europa Park élu 8 fois meilleur parc de loisirs du monde. De quoi s'agit-il? Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. On vous offre un séjour de 2 jours pour 4 personnes à l'Europa Park. Les entrées pour le parc, la nuit dans un hôtel 4 étoiles, le petit déjeuner, 2 jours de sensations fortes. Vous avez plus de 100 attractions, dont 13 grands 8. Et vous pouvez aussi découvrir le parc aquatique nordique d'Europa Park qui s'appelle Rulantica. Donc à vous d'envoyer RMC par SMS au 732-16 pour jouer et pour gagner le séjour à l'Europa Park. On revient à notre sujet de discussion avec Barbara Lefebvre, avec Charles Consigny.
On était sur une bonne lancée.
Et avec Bruno Poncet sur voter animaliste aux élections européennes. Est-ce que c'est un vote utile ou pas? On va en parler avec Philippe dans un instant. On peut regarder où en est la tendance, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on en est? Alors, c'est inutile pour Charles et Bruno, c'est utile pour Barbara. Il faut, en votant pour le parti animaliste, œuvrer non seulement pour la cause animale, mais pour lutter contre l'élevage intensif.
Si 29%. Hélène Pouille fait 29%.
71-29, inutile, ouais.
Non, mais j'entends, hein, mais juste ce qu'on me permette de terminer sur la question de l'esclavage, puisque je sens que ça a énervé Charles, ou en tout cas les moqueries de l'urgie. C'est historique. En Angleterre, c'est William Wilberforce qui était un des plus grands abolitionnistes anglais, qui est d'ailleurs qui était député, hein, qui a même été proclamé citoyen français d'ailleurs par l'Assemblée nationale d'honneur en 1792. Donc Wilberforce était un grand abolitionniste et c'est lui qui a fondé la Société pour la prévention de la cruauté contre les animaux, qui est l'équivalent de la SPA. Oui. Dont la reine Victoria, puis la reine Elisabeth II et le roi Charles.
19e, c'est ça?
Oui, tout début du 19e. D'accord. Bien avant la France, mais la France a été juste après. C'est avant la loi Gramont en France, la SPA.
Donc bien avant finalement qu'on abolisse l'esclavage, bien avant que les femmes aient le droit de vote.
Voilà. Et Wilberforce a été vraiment à la pointe de ce combat. Oui. Il a été aussi un grand acteur des luttes sociales pour les ouvriers, etc. Donc ces questions des sans-voix. Alors bien sûr aujourd'hui l'esclavage, etc. On n'est plus sur les mêmes sans-voix, mais les animaux sont, on va dire. Et en particulier les animaux sauvages d'ailleurs, qui sont particulièrement maltraités et pour certains en voie d'extinction. Et les animaux de rente et d'élevage, n'en parlons même pas, qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence du fait de la façon dont ils sont traités. Ce sont des sans-voix. Et qu'il puisse y avoir un parti qui exprime et qui s'exprime au nom de ces sans-voix, je ne vois pas où est le problème. Après, je peux entendre que des gens considèrent que c'est inutile.
Tu viens de le dire toi-même, Barbara, William Willsboro, là, je sais pas quoi, là.
Wilberforce.
Il avait quand même pas que ça comme combat, il avait d'autres combats. Oui. Alors que les animalistes, c'est un petit peu cerné dans une niche, tu vois. Donc, à un moment donné, tu peux parler du parti animaliste, mais
sont
si tu parles
sur la question de l'élevage intensif. Mais non.
Tu parles pas des droits de l'homme.
Mais si, parce que tu parles souveraineté alimentaire, tu parles, respect, tu parles protection des terres, parce que tu parles de l'eau, de la consommation de l'eau, et tu parles surtout de la question de la souveraineté alimentaire, d'une autre vision de l'agriculture, donc des agriculteurs et des éleveurs. Tu parles pas que de ça, tu parles de la relation que l'homme.
Ça, en fait.
Non, parce qu'en fait, la question, c'est la relation que l'homme a à l'animal.
Alors, on va passer par
est-ce qu'il a uniquement 16. Une relation de domination et de prédation, ou est-ce qu'on accepte d'avoir un autre type de relation qui induira un autre changement aussi dans notre regard par rapport à l'environnement, et du coup, ça aura un impact positif sur les humains. Tu sais, à chaque fois que les animaux ont gagné des droits, ça a eu un impact positif sur les humains. Ça a fait une société un peu plus civilisée, je crois. Va regarder la façon dont vivent les animaux dans certains états totalitaires. Là, tu comprends mieux. Regarde comment les animaux sont traités dans les démocraties. Justement, ça reflète en général notre capacité. Alors, comme disait Chateaubriand, j'ai un cœur et je n'ai pas un cœur pour les humains et un cœur pour les animaux, j'ai un seul cœur.
Moi, je vois surtout certains humains, comment ils sont traités dans la démocratie, ça m'inquiète un peu aussi quand même.
Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, bienvenue Philippe dans notre discussion. Le vote animaliste aux élections européennes, utile ou inutile?
Eh ben, un peu à cheval entre les deux, parce que au niveau idéologique, je suis assez d'accord par rapport aux problématiques qui soulèvent et qui souhaitent défendre, parce que ça semble important, quelle que soit la temporalité. Mais le souci, c'est un peu comme Bruno disait, c'est que c'est très centré que sur l'animal. Bon, je suis bien d'accord que ça peut entraîner des choses sur l'alimentaire, tout ça, mais le problème, c'est qu'il y a... C'est pas un parti complet. Pour moi, ça devrait rester dans de l'associatif et du lobbying. Étant donné que on peut pas construire et diriger un pays seulement sur ces idées-là.
Je suis d'accord avec vous, mais les autres partis.
Provocation en fait, excusez-moi. je vais vous faire un peu de provocation en fait en disant bah dans ce cas-là pourquoi on fait pas un parti vegan, un parti pour les petits, un parti pour les roues, un parti pour
ouais, je sais, c'est l'argument qui est toujours donné, mais sauf que les animaux sont en termes de biomasse, nous les mammifères sapiens, Homo sapiens, c'est peanuts, c'est rien du tout. Les animaux sont bien plus nombreux que nous à l'échelle de la planète et n'ont aucun droit et sont déconsidérés. Donc j'entends ce que vous dites, si les autres partis prenez en compte à côté de l'humain, ils prenaient en compte la question animale et comprenaient à quel point on s'inquiète des liens entre les animaux et les humains quand c'est pour parler des zoonoses, quand c'est les maladies que nous transmettent les animaux ou qu'on transmet aux animaux. Mais non, justement, on fait partie de la même planète, on est tous des êtres vivants et c'est en travaillant ces relations. Si les autres partis s'en occupaient, il n'y aurait pas besoin d'un parti animaliste. Si les autres partis intégraient la question animale, il n'y aurait pas besoin d'un parti animaliste. Donc on n'a que des partis qui s'occupent que des humains. Il y a un petit parti de rien du tout qui menace personne, qui s'occupe des animaux.
Mais je veux dire, c'est pas ça qui est un problème dans le monde. Hein. Les cafards sont pris en compte.
Allez-y, Philippe.
Pas
allez-y.
Moi, je ne tue pas les cafards, ça, je les respecte. Je l'aime bien, j'adore, mais sur des sujets comme ça, en fait, Barbara, elle est trop à fleur de peau, faut pas la titiller comme ça.
Non,
en fait,
ça me suit pas à fleur de peau, je m'en fous. Moi, je tue pas les cafards.
Pour moi, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que, on est trop dans le dogme, mais dans la segmentation actuellement. Et c'est pareil dans énormément de problématiques. Et en fait, on veut saucissonner des choses, et les segmenter, alors que la problématique est plus globale.
Je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous.
On peut pas résumer le combat des animalistes à juste, il faut sauver les chiens, les chats, les chiens et les acariens.
Mais en théorie, je suis d'accord.
C'est pas ça qui dirige un pays, quoi.
J'ai compris, mais Madame Thuy et le parti animaliste n'a pas vocation à diriger le pays. Il faut pas rêver non plus. Ils veulent juste faire entendre une voix et exercer. Ils veulent juste participer au débat public. Bon, c'est tout.
Mais du coup, on dévoile que le problème. C'est bien un parti politique. C'est bien le problème actuellement. Est-ce que vous défendez très souvent?
Excusez-moi, Philippe. Parce que je suis en train de vous dire, c'est que si les partis généralistes, si les partis généralistes évoquaient en plus des autres débats, intégraient la question animale, comme ils intègrent toutes les autres questions, la question sociale, la question environnementale. S'ils intégraient davantage la question animale, je répondrai deux secondes, le parti animaliste n'aurait pas besoin d'exister. Et quant aux écologistes, je vais te dire, pour moi qui suis animaliste, d'accord, au sens où la question animale compte beaucoup pour moi, les écologistes ne parlent jamais de la question animale. Les écologistes, ils te parlent de l'environnement, j'ai entendu encore Madame
Toussaint.
Comment elle s'appelle? Toussaint. Dire la nature. Alors déjà, un écologiste qui te parle de la nature, déjà ça, tu te marres, parce que la nature, c'est un concept. D'accord? Donc, les écologistes ne parlent pas de la question animaliste, ils n'y connaissent rien, ils n'en parlent jamais. Ils te parlent de l'environnement, du CO2, des trucs comme ça, théoriques, mais ils ne parlent jamais des animaux, ils n'y connaissent que dalle. D'ailleurs, ils sont tous plus ou moins, ils mangent de la viande, etc., les chefs écolos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es vraiment écolo, t'es au moins végétarien à la base, tu vois. Déjà un peu où tu as beaucoup réduit ta consommation de viande, parce qu'aujourd'hui,
moi, j'ai augmenté
on voit
ces
bien.
Derniers temps.
Non mais c'est bien, tant mieux, ça compense le de plus en plus de gens qui sont végétariens et véganes, et c'est tant
une bonne
mieux.
Côte de
mais
bœuf.
Ce que je veux dire par là, ben on t'empêche, personne t'empêche, c'est très bien. De toute façon, tu es la majorité. Hein, le monde est carniste, donc il y a pas de problème. Mais c'est bon. Juste, encore une fois, si tous les partis parlait de ce sujet, il y aurait pas besoin du parti animaliste. Il existe, il est là pour mettre un sujet dans le débat. Moi, je trouve ça bien.
D'ailleurs, dans les propositions, ce que je vois, c'est
le veau, c'est bon.
Premier pilier, permettre le partage des territoires, reconnaître l'eau comme un bien commun, interdire l'élevage intensif, soutenir la transition vers une agriculture végétale, proposer davantage de transparence, société apaisée avec le souhait de créer une réglementation générale applicable à tous les animaux. Une santé protégée, prenez une alimentation plus végétale pour éviter le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Une sécurité sociale.
Et une agriculture d'avenir en prenant en charge l'endettement des agriculteurs et l'arrêt de la subvention de la PAC.
Voilà. Donc vous voyez que c'est pas les chats et les
ça
chiens.
Ça se rapproche quand même du programme des écologistes.
Non, mais surtout, t'as un sujet, c'est que là-dedans, dans leur programme, à quel moment ils parlent aussi du monde urbain, du problème de l'emploi? Parce que, à un moment donné, si t'arrêtes les fermes, un tas de trucs qui aujourd'hui est fait dans l'agriculture, ça va refaire encore de l'emploi en moins. Enfin, ça reste
la reconversion, mais
pour moi ça reste un truc de niche en fait. Tu vois, c'est ça le truc.
Mais tu sais, on a arrêté les boucheries chevalines et on a arrêté l'hippomobile. Tu vois, on n'a plus besoin de chevaux pour se déplacer. Ça a fait disparaître des emplois. Si tu veux, et alors, le monde s'est écroulé.
Donc tu préfères les voitures.
Non, mais je veux dire, il y a plus de cochers, donc c'est grave. docteur.
C'est grave, ouais. Parce que moi, je préfère un cocher, vraiment.
Ah ouais, avec des chevaux maltraités qui, toute la journée, tirent des calèches. T'as raison, moi, je préfère être dans une voiture, si tu veux.
Non, mais à un moment donné, Barbara.
Non, mais tu vois le niveau du débat.
Oui, mais regarde, tu peux pas nous dire que tu préfères être dans une bagnole et de l'autre côté, nous dire, les animaux, mais à un moment donné.
Ma voiture électrique. Mais non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce que tu dis n'a pas de sens. Ça va faire disparaître des emplois.
Tu reviens dans un monde. Barbara, t'es partie. Tu vois le problème, tu peux critiquer l'écologie et tout les, en plus l'écologie souvent est dévoyée, nous bascule souvent sur des problèmes qui sont périphériques à l'écologie. Mais à un moment donné, Barbara, le monde dans lequel tu veux nous emmener, c'est un monde dans lequel personne ne veut aller, à part toi et peut-être 2,7% des Européens, en fait.
Parce que. Emmener le monde nulle part, tu sais, parce que déjà, je veux débarrasser le monde des islamistes.
Et puis
c'est
des
prioritaire.
Français un peu
non, mais,
aussi,
dire, si je dois choisir entre lutter contre les islamistes ou lutter contre les maltraitants des animaux, je pense qu'effectivement, l'urgence pour l'instant, c'est d'essayer d'éviter qu'on se fasse tuer par des gens.
Non,
mais c'est pour te dire, je sais quand même ranger mes priorités. Là, excuse-moi, on a un débat, c'est le vote animaliste. Je te parle d'un sujet. Qui m'est posé et moi après que tu me parles de ma vision du monde, c'est un débat sur le vote animaliste. Tu veux que je te parle de quoi?
Alors attends, vas-y Bruno.
Laisse nous parler. Moi je te dis franchement, c'est un truc de niche parce que Alain vient.
T'as l'impression que c'est une régression de la société, c'est ce que tu veux dire.
Oui, parce que c'est encore partir dans des excès. On peut pas aujourd'hui, moi je pense, qu'est-ce qui manque dans le débat actuel? Mais dans tous les débats, c'est de la nuance. Tu peux vouloir, et moi personnellement, je veux que les animaux aient des droits et qu'ils soient respectés et qu'on s'en serve pas comme de la chair à canon. Mais d'autre côté, tu peux quand même penser qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui.
Je n'ai jamais dit le contraire.
Dans un monde où les gens.
Mais est-ce que j'ai dit que la priorité c'était les animaux? Sans rigoler.
Non, mais est-ce qu'à un moment, je peux parler? Est-ce qu'à un moment,
non, mais l'honnêteté du débat. Est-ce qu'à un moment, j'ai dit.
Et en boucle depuis une demi-heure. Laisse
mais c'est le sujet, le vote animaliste, et je suis toute seule. Tu rigoles ou quoi?
Oui, mais dans ce
cas. Tu es en boucle, tu veux que je parle de quoi? Il y a un sujet qui est posé. Mais il y a un sujet qui est posé.
Tu as trouvé. Tu vois,
non, mais
tes
arguments
ne
me font pas des critiques personnelles parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens,
en fait.
Mais t'as pas d'argument.
Mais si j'en ai, j'étais en train de me dire.
Je viens
d'entendre le programme, moi, il me fait penser au programme d'écologie.
Ok, tu me dis que je suis en boucle sur un sujet. On a 10 minutes sur un sujet qui est posé au GG. Tu m'excuses. Et ensuite, je ne t'ai jamais dit que c'était l'alpha et l'oméga de l'univers politique. Donc, tu me fais porter des propos que je n'ai pas tenus. Mais par contre, avance des arguments,
alors,
et là, on en parlera.
Charles, je remercie Philippe d'avoir été avec nous. Charles, et
moi,
ensuite,
je n'ai pas grand-chose de plus. C'est-à-dire, je pense que c'est respectable de vouloir préserver le bien-être animal, de vouloir préserver les animaux d'actes de cruauté. Je pense que ça n'est pas risible et que ça peut avoir voix au chapitre.
C'est un autre modèle de société. Vers quoi veut tendre le parti animaliste?
Mais je ne pense pas de toute
plus, façon. Plus sobre, oui. Beaucoup moins consumériste.
Non, mais ça, c'est la vieille névrose. Mais
c'est vrai, c'est une réalité, c'est ce qu'ils disent. Moins consommateur.
De plus exploiter l'animal.
En animal, moins consommateur en énergie, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus respectable.
Mais en France, on y est déjà.
Beaucoup plus sobre, mais on y est décroissant.
Mais on y est, en France, on est en sobriété subie, pour parler comme Madame Pannier-Runacher, je crois. On est déjà dans cette société sobre en France. On prend tous les transports en commun. On rationne notre électricité. On rationne notre chauffage. Par peu à l'étranger dans l'ensemble. On consomme en réalité tout à fait peu par rapport à plein d'autres pays dans le monde. Donc on est déjà dans cette situation.
Alors, fin
en
de la
France.
Discussion.
Et résultat des courses, on est malheureux.
Je regarde le vote final. Vote animaliste européenne utile ou inutile. On va voir quel est le résultat final. Go, on y va. 72-28, 28% pour
essentiel,
Barbara,
c'est
72%
28,
pour Bruno, inutile. Et Charles Girard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Girard, c'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui gagnez les places pour l'Europa Park, le séjour.
Oui, merci monsieur.
Mais je vous en prie Charles, vous avez donc...
Gérard.
Mais non, Gérard, deux fois aujourd'hui, je me trompe dans les prénoms. Mon cher Gérard, donc vous avez gagné deux places. Non, vous avez gagné quatre places pour un séjour de deux jours à l'Europa Park. Je vais y arriver.
À l'Europa Park. Ah,
deux jours pour quatre personnes à l'Europa Park qui a été élu 8 fois meilleur parc de loisirs au monde.
Voilà. Merci monsieur, merci, c'est gentil.
Mais
c'est
je
gentil.
Vous en prie, vous pourrez en profiter en famille. Vous avez la nuit à l'hôtel 4 étoiles, vous avez les places et vous avez le petit déjeuner, mon cher Gérard.
Voilà, et je vous remercie, c'est une très belle émission que vous avez.
Merci beaucoup, vous voyez, et votre fidélité est récompensée. Dans un instant, avec nous un sociologue, Michel Fils, ça fait 40 ans qu'il regarde l'évolution des adolescents. Que pense-t-il de ce qui s'est passé avec Samara? Que pense-t-il de ce qui s'est passé avec Shemseddine? Une adolescence de plus en plus violente, une adolescence qui n'hésite plus aujourd'hui à tuer éventuellement, si on n'est pas d'accord avec elle. Une adolescence de plus en plus radicalisée, ouverte aussi à la religion. Michel Fils pour répondre à nos questions et avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre de ce qui fait l'actualité. Malheureusement, elle n'est pas très réjouissante. Et on en parle depuis ce matin, depuis 9h, avec Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie, Bruno Poncé, cheminot et syndicaliste, et l'avocat Charles Consigny. Et on va continuer de l'évoquer avec le sociologue Michel Fize.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Michel Fils qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ça fait 40 ans que vous regardez la France, que vous regardez la société française, que vous regardez les adolescents surtout. Là, vous sortez un livre qui s'appelle « La crise morale de la France et des Français. Enquête sur un individu trop certain » sur tes éditions Mimesis. Alors, avant de parler de la crise morale que traverse la France, le spécialiste de l'adolescence, là, que pense-t-il de ce qui est arrivé à Samara? Que pense-t-il de ce qui est arrivé à Chemchedi? Un a perdu la vie, l'autre a été tabassé pour des histoires d'émancipation, des histoires de code moral, de code religieux. Que se passe-t-il ?
Eh bien, j'ai envie de dire que dans une société qui a perdu ses codes, ses valeurs, ses repères, il ne reste que des codes, j'ai envie de dire, substitutifs. Oui, substitutif, hein, le code de l'honneur dont on parle depuis quelques jours par rapport à l'affaire de Véry-Châtillon. Non, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que on peut même plus parler de transgression par rapport aux règles, parce que ça supposerait qu'il y ait des règles et des règles qui soient connues. Donc, on agit sous le coup de la pulsion, de l'émotion, pour obtenir une satisfaction immédiate, mais sans nécessairement être dans un projet criminel. Par exemple, pour ce qui concerne la.
Ça veut dire qu'on n'a pas conscience? Ils n'ont pas conscience au moment où ils mettent quelqu'un à terre et qu'ils lui tapent dans la tête de ce qui va se passer?
Oui, c'est-à-dire que les policiers eux-mêmes sont tout à fait surpris du fait qu'il n'y a pas conscience de la gravité de.
Garçon ou fille, hein, parce qu'on met une fille à terre, on lui tape dans la tête pour la tuer. On met un garçon de 15 ans parce qu'il a eu malheur de parler avec une sœur et que la sœur n'a pas le droit de parler au garçon.
Voilà, alors ça, c'est des codes qu'on retrouve chez certains jeunes de cité, hein, c'est-à-dire. La soi-disant protection des grands frères exercée sur les jeunes filles, voilà, au nom de traditions qui assurent ce rôle effectivement au mal dominant, si l'on peut dire, voilà, et ça entraîne ces séries d'actes qui sont incontrôlés. D'ailleurs, par exemple, quand on dit dans cette affaire qu'il y a un soupçon d'assassinat. Je ne pense pas. Hein, je serais plus du côté de la thèse de l'avocat qui dit qu'il y a eu des coups effectivement volontaires portés, voilà, mais pas nécessairement avec intention de donner la mort. D'ailleurs, l'idée, c'est de donner une bonne raclée, de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas entre garçons et filles, qu'il y a des sujets dont on ne parle pas. Mais l'assassinat, ça veut dire de monter une opération avec véritablement l'intention radicale de tuer l'autre. Voilà, je pense qu'on n'en est pas quand même tout à fait là. Alors, c'est pas moins grave pour autant, hein, naturellement. Ouais. Mais
est-ce qu'il y a une ultra-violence aujourd'hui qui monte chez les ados?
Oui, alors il y a quelque chose d'assez paradoxal.
Alors, on dit ultra-violence, c'est un peu le terme à la mode. Mais...
Alors, d'abord, il ne faut pas confondre délinquance et violence, hein, ce que font un certain nombre de mes petits camarades sociologues, parce que ça permet de dire parfois des bêtises. Donc, il y a une stabilisation statistique de la délinquance des mineurs. Hein, j'ai regardé par rapport à l'an 2000. Les chiffres, hein, sont toujours autour de 160-170 000 jeunes mis en cause. Voilà. Mais par contre, il y a une explosion des violences réelles. Hein. Et avec une particularité, c'est que tout n'est pas enregistrable. Par exemple, si vous allez dans un commissariat, que vous déposez une main courante, eh bien, elle sera enregistrée ou pas enregistrée selon le commissariat, selon... Voilà, donc tout ça échappe déjà à la visibilité statistique. Maintenant, vous êtes dans le métro, vous essuyez un mauvais regard, hein, ou vous refusez une cigarette, hein, ou sur une place de parking, vous refusez de céder la place, eh bien, vous avez une altercation qui va évidemment pas entrer dans le champ statistique s'il n'y a pas évidemment d'infraction qui tombe sous le coup du code pénal. Cracher à terre, Bon, c'est pas très visible, mais ça tombe pas sous le coup de la loi, alors que c'est une.
Mais notre société est-elle de plus, est-ce que notre société est plus violente? Est-ce que la jeunesse est plus violente aujourd'hui? Alors, en étant beaucoup plus jeune, on voit les policiers nous raconter qu'ils interpellent des gamins de 10, 12 ans. Qui sont dans la violence vis-à-vis de leurs enseignants, de l'autorité.
Et je peux compléter par une question, puisque tout à l'heure vous avez expliqué que le problème, c'est qu'ils ne transgressent pas des règles, puisqu'ils ne sont déjà même pas au courant de la règle. La question, c'est qui pose la règle? Qui est le premier dans la vie d'un enfant qui pose la règle?
Voilà. Alors, évidemment, évidemment que les parents sont en première ligne. Voilà. Et moi, j'avais été frappé quand j'avais enquêté sur les relations familiales au milieu des années 80. Il y avait une formule qui, à mon avis, était tout à fait illustrative et qui était d'ailleurs aussi en application dans le milieu scolaire. C'est quand un parent, un jour, m'a dit « Oh, ça va, la politesse des mots, c'est pas très important. L'important, c'est la politesse du cœur. » Eh bien, à partir de ce moment-là, tout était foutu, finalement. Ah oui, ça, parce que on a reculé sur les mots. On n'a plus nommé les valeurs. Hein, ce qui est perdu, vous savez, une société, c'est comme une maison. Ça doit reposer sur des fondations. Et les premières fondations, c'est des valeurs civiles et individuelles avant même
Est-ce que ça a à voir avec l'immigration?
Non, pas plus. Vous savez, il n'y a pas de profil type. Hein. Donc là, effectivement, dans l'affaire
Est-ce que ça a à voir avec le communautarisme?
Alors, ça a à voir avec un certain enfermement, ça a à voir avec une certaine exclusion scolaire, professionnelle, bon, avec un urbanisme qui peut être dégradé, mais attention, pas de raccourci, c'est pas parce qu'on est pauvre ou dans une famille à difficulté qu'on va devenir nécessairement un délinquant. Voilà. Non, le plus grave, encore une fois, c'est ce socle moral, enfin, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des mœurs collectives, des règles. On ne peut pas vivre ensemble si, encore une fois, on est dans le rapport de force au quotidien.
Oui, pourquoi il y a le refus de l'autorité? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte plus l'enseignant, l'école, et on estime que ce qui se passe en dehors de l'école est plus important que ce qu'il y a à l'école?
Eh bien, là, il y a eu deux philosophies qui ont eu des effets assez néfastes. Hein, c'est la confusion qui a été faite dans les années 70 entre libéralisme et laxisme. Voilà. Et on a été à une époque où on a vulgarisé la psychanalyse en disant finalement, la meilleure éducation, c'est de ne pas en faire.
Voilà.
Voilà. Ce qui a donné lieu évidemment à l'enfant roi, hein, auquel on n'a pas interdit. Donc jusqu'à ce propos de cette mère disant, bon, si mon fils me dit merde, que c'est pas grave, il m'aime. Hein. Voilà, c'est l'important. Enfin, et au même moment, dans les écoles, on a commencé à voir quelque chose qu'on a minimisé, c'est la violence verbale. Hein, et je me souviens d'un professeur, également chercheur, qui disait, mais vous savez, oui, dans les classes, il y a quelques mots quand même, des mots d'oiseaux, comme on disait encore à l'époque, voilà. Mais vous savez, si on devait relever ça, on passerait 100 ans à faire ça.
Voilà.
Voilà. Et bien, ça a été le commencement de la fin. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas enregistré les violences verbales, et les chercheurs de l'éducation ont été les premiers à dire, ce sont des micro-violences. Hein, c'est pas important.
D'accord, donc on a fermé les yeux.
On a fermé les yeux. D'accord. Voilà. Okay. Sauf qu'on oublie que c'est avec les mots qu'on fait du harcèlement. Voilà. Donc si effectivement on accepte les mots violents, eh bien on ouvre le champ évidemment des violences harcelées sur les réseaux sociaux en particulier.
Bruno Poncet.
Moi je trouve que à la question, la société est-elle devenue violente? Moi je pense réellement que la violence elle a basculé vers des plus jeunes, de plus en plus jeunes qui sont, c'est ça qui est vraiment inquiétant. Par contre, elle a toujours été violente. Enfin, moi, j'ai un grand-père qui se battait tout et qui était royaliste, qui se battait contre les communistes tous les week-ends, mais ils se battent à Versailles et ils se mettaient vraiment fortement sur la gueule. Quand j'étais gamin, les bagarres, sortie du lycée, sortie du collège, on a tous connu ça. Ça allait pas jusqu'à la mort, évidemment, ou alors c'était vraiment très rare, mais il y avait déjà des bagarres et avec des outils. Enfin, moi, j'avais un cran d'arrêt dans la poche, j'avais un poing américain, c'était comme ça. Et donc la société a toujours été violente. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des situations où il y a une envie. Même si vous pensez que vous, ils veulent pas tuer. Moi, je suis désolé, mais si vous vous mettez à 5 ou 6 sur quelqu'un et que vous commencez à lui mettre des coups de pompe dans la tête, ça va mal se finir. Nous, on savait très bien quand on se battait, on touchait pas la tête comme ça. Quand il était au sol, c'était dans les côtes, ça allait pas plus loin en fait.
Bah, il y avait une perception du danger, hein, ce que j'avais repéré notamment dans les fameuses bandes de blousons noirs dans les années 50, fin des années 50. Hein. On savait jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'important, c'était de faire comprendre à l'autre qu'il était le moins fort. Oui. Et donc, on avait évidemment des couteaux, quelques chaînes, etc. Mais le projet n'était pas de tuer. Hein. Le projet, c'était de régler un compte, de faire comprendre qu'il y avait effectivement un plus fort et un plus faible. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, il y a eu une montée de la radicalisation, ce qu'on appelle l'ultra-violence aujourd'hui. Et ce fait nouveau, c'est que la violence est à la fois une perception, une représentation, une ambiance, un sentiment, des faits enregistrés, pas enregistrés. Elle est partout. Hein, l'autre jour, j'avais un chauffeur de taxi qui me disait, j'ai eu une altercation avec un automobiliste l'autre jour en me rendant à l'aéroport de Charles de Gaulle. Il m'a dit, mais c'était deux mots vraiment pas très graves. Il m'a dit, mais ce type-là, il m'a poursuivi pendant 25 kilomètres en me faisant des appels de phare, en m'insultant, etc. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est que malheureusement, les jeunes n'ont pas le monopole de la violence. Hein. D'ailleurs, je rappelle que la délinquance des mineurs, c'est moins de 20% de la délinquance générale. Voilà. Par contre, effectivement, au niveau des violences, notamment les violences contre les personnes, les violences sexuelles, c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus de jeunes. Et dans les violences verbales, évidemment, aussi, il y en a un grand nombre.
Oui, mais parce que vous avez expliqué que dans les années 50, 60, même dans les années 80, l'idée c'était de rabaisser dans le rapport hiérarchique, il y a le dominant, il y a le dominé, je te tape dessus, comme ça tu reprends ta place de dominé. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui n'ont pas envie juste de rabaisser la personne, qui ont envie de l'éliminer, de lui ôter toute existence en tant qu'être humain. Parce que c'est ça, quand on roue de coups et qu'on s'en met en plus à 4 sur un petit de 15 ans quand on en a 20, on n'a pas envie de lui faire comprendre, de le remettre à sa place. On a envie de l'éliminer de la surface de la Terre. Donc moi, je veux bien qu'il n'y a pas de volonté de tuer, etc. Mais en fait, en soi, dans l'idée qu'on puisse taper dans la tête d'un enfant de 15 ans, on sait très bien, parce que ces gens-là ne sont pas idiots, surtout que pour la plupart, c'était déjà des délinquants, donc ils avaient déjà un peu d'expérience et dans le domaine. Donc j'ai quand même du mal à imaginer qu'il y ait... Alors bien sûr, il n'y a peut-être pas cette intention de tuer verbalisée, mais en réalité, elle est complètement intériorisée, cette volonté de tuer.
Oui, mais
puisque l'autre n'existe pas.
Alors ça, c'est vrai. Je partage tout à fait ce que vous dites. Hein, il y a une négation même de la vie de l'autre. Hein, la vie n'existe pas. Mais des altercations, fort heureusement, qui débouchent sur des morts, donc de garçons ou de filles, sont encore heureusement rarissimes. Oui,
ben pour l'instant. Mais ça voilà. Va peut-être devenir la règle. Il y a 20 ans, on disait c'est encore minime, mais ça va pas dégénérer. On se rend compte où on en est. Donc aujourd'hui, ce qui arrive avec l'hyperviolence de certains jeunes, si on ne fait rien, on va être où dans 10 ans? Dans 10 ans, on va en avoir tous les jours des Chamsedine.
Face à cette ultra-violence, il faut des ultra-sanctions.
Alors. Bon, d'abord, parce que bon,
je
ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas envie de dire. Bon, évidemment, quand il y a des infractions, il y a une intervention policière, il y a une réponse pénale. Bon, tout ça, c'est pas de mon fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a un domaine sur lequel on n'a pas beaucoup avancé. C'est le domaine de la prévention. Tous azimuts, hein. D'ailleurs, dans un autre domaine, la prévention médicale, elle est tellement faible que finalement, hein, on a des situations de mauvaise santé qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. La prévention, pour moi, ça veut dire, il faut repartir. Alors, je vais peut-être employer un mot très chrétien, hein, mais on a parlé de catéchisme laïque. Alors, on peut parler d'un catéchisme moral. Il faut repartir sur la connaissance des mots qui nomment les valeurs. La bienveillance, le respect, la tolérance de l'autre, par rapport à ce que disait Barbara, on est en désaccord, eh bien on en discute. Voilà. Il y avait quelque chose d'ailleurs, et quelque chose qui marche bien dans les écoles, c'est les médiations, qui peuvent être d'ailleurs d'élèves plus anciens par rapport à des plus petits, ou d'adultes avec... Le problème, pour rester sur le domaine de l'école, c'est la disparition de l'humain. Il n'y a pas assez d'assistants d'éducation, il n'y a pas assez d'infirmières, hein, il n'y a pas assez de médecins scolaires, voilà, et il n'y a pas assez d'interventions. Et moi, je suis frappé de voir que une école, une cour de récréation de l'école primaire, c'est une école où le professeur ou la professeure des écoles estime que son devoir, c'est de réguler aussi l'organisation de l'espace. C'est pas un rôle que l'on a au niveau du secondaire. Donc, je dis toujours, la première zone de non-droit en France, c'est une cour de récréation.
Donc, est-ce qu'il faut mettre des conseils de discipline à l'école primaire, comme le souhaite Madame la ministre de l'Éducation nationale?
Eh bien, paradoxalement, on va pas sortir de cette violence par plus de répression, mais par plus de dialogue. C'est-à-dire, il faut réhabituer les gens à discuter, à dialoguer, à échanger leurs désaccords, hein, et notamment à l'école. Et ça passe par l'écoute non seulement des agresseurs, mais des agressés, de tout le monde.
Hein, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir la pauvreté parfois linguistique et conceptuelle de certains qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils vont vous dire, je ne sais pas comment le dire, madame. Alors cette phrase, je ne sais pas comment le dire, madame.
En général, derrière, on passe au geste.
Ah bah oui, de toute façon, c'est peut-être la phrase que j'ai le plus entendue dans ma carrière. Je ne sais pas comment le dire, madame. Ils n'ont pas les mots.
Pourquoi est-ce qu'on dégaine facilement les points? Parce qu'on ne peut pas dégainer les mots.
Vous restez avec nous, Michel Fils. Question de l'avocat Charles Consy dans un instant, de Bruno, de Barbara. À tout de suite avec Michel Fils pour parler de la crise morale que traverse la France. Crise morale qui aboutit peut-être à une crise de violence.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les GG avec aujourd'hui sociologue Michel Fils. La crise morale de la France et des Français. Enquête sur l'individu trop incertain, c'est aux éditions Mimesis. On parle avec Michel Fils de cette France là qui se sent pas bien visiblement, d'une adolescence plus violente, qui est en quête de repères, de mots aussi pour mieux s'exprimer. Avec Barbara Lefebvre, avec Bruno Poncy, Charles Consigny, Maître Consigny, discussion avec Michel Fils.
Je trouve que cette discussion est très intéressante. Je me demande si on prend vraiment suffisamment la mesure du phénomène. Je pense qu'il y a un phénomène de racaillisation de toute une partie de la population qui maintenant obéit à un système culturel, un système de valeurs totalement alternatif au système de valeurs communément adopté par l'ensemble de la population. Je constate que ça va du jeune collégien qui va casser la gueule de son voisin pour une histoire de sœur à laquelle on parle, etc., au livreur Amazon qui va regarder tout ce qu'il y a dans les boîtes pour se servir au passage le faire en toute impunité puisque c'est impossible derrière à retracer. On a eu plein de cas, tout le monde a vécu ça. Et donc moi je me dis, mais au fond, qu'est-ce qu'on... Donc vous dites qu'il faut se réapproprier des termes, etc., réinculquer des valeurs, etc. Bon, mais on sait plus vraiment quoi faire, en fait. On est un peu démunis, les politiques sont démunis, les profs, on n'en parle même pas parce qu'ils sont en première ligne. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de d'endiguer ce phénomène de jeunes gens qui ont quand même des traits communs, je veux dire, qui s'habillent un peu de la même façon, qui ont un peu les mêmes goûts. Il y a aussi un peu parfois d'intégrisme religieux qui vient se mettre là-dedans. On l'a vu sur Samara. Donc il y a toute une espèce de contre-société qui se crée et qui franchement n'est pas souhaitable et contre laquelle on aimerait bien lutter. Donc moi je me dis, est-ce que il y a un phénomène de relégation sociale quand même qui existe, de jeunes qui sont dans des quartiers dans lesquels ils ont malgré tout pas le même horizon que les autres, ils entrevoient pas les mêmes possibilités, ils ont pas les mêmes facilités, ils ont pas les cours particuliers le soir, quand ils commencent à décrocher à l'école, ils sont moins surveillés par leurs parents, ils ont des parents qui sont débordés. Est-ce qu'on devrait pas aussi responsabiliser les parents d'une certaine, y compris via des sanctions pécuniaires ou que sais-je, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà. Est-ce que le phénomène n'est pas quand même, vous dites que la délinquance est stable depuis les années 2000, est-ce que le phénomène n'est pas quand même un peu n'a pas tendance à se généraliser de manière inquiétante, et qu'est-ce qu'on peut faire en termes très pratico-pratiques selon vous pour casser ça?
Alors déjà par rapport aux familles. Là, je suis tout à fait d'accord avec le propos qu'a tenu le président quand il parle de l'accompagnement des familles et de la responsabilisation d'un certain nombre de parents. Alors maintenant, il faut trouver les bonnes réponses. Pour moi, les bonnes réponses, c'est ce que j'ai appelé un jour peut-être, en termes d'imagination, d'imaginer des stages de soins parentaux. C'est-à-dire pour permettre aux parents de remplir leur mission de parents. Parce qu'effectivement, je suis de ceux qui, comme chacun autour de la table, considèrent que les parents doivent éduquer. Voilà. Mais il faut qu'ils aient les moyens d'éduquer. Or, le président prenait l'exemple des mamans solos. Bon, les mamans solos sont des mamans en grande difficulté de précarité professionnelle et de précarité financière. Donc, ajouter une sanction financière à déjà des insuffisances monétaires ne ferait qu'aggraver la situation. Voilà. Mais encore une fois,
c'est pas... On peut sanctionner le père.
S'il est là.
S'il est là. Voilà. Mais même s'il est pas là.
Bah, s'il est au pays ou qu'il a, il, non, ou s'il veux... a jamais existé, qu'il il a voilà. laissé la femme tomber dès le début.
Alors maintenant, pour repartir, bon, je pense qu'effectivement, il faudrait que le politique prenne conscience du béaba d'un fonctionnement social. Voilà. Quel est le besoin élémentaire de tout individu dans une société? C'est un besoin d'identité. On a besoin d'une identité à la fois personnelle, bien sûr, et d'une identité collective.
Et on la trouve dans la religion, voilà, cette identité aujourd'hui.
Voilà pourquoi le djihadisme marche. Parce qu'ils apportent clé en main une identité de substitution. Eh bien, tu vas aller combattre hein, sur les terres irakiennes ou autres, hein,
ou en France,
par une série d'attentats. Voilà, tu vas être investi d'un rôle. Avec évidemment une promesse.
Le rôle, c'est plus le collectif aujourd'hui.
Et ben voilà,
c'est
le rôle
dans la dans mais une dans une France laïque, une république laïque.
Ils sont dans le collectif. Ils sont dans le collectif de l'Ouma. C'est pas pareil.
Oui, mais non, mais le correspond à leurs valeurs. La France, voilà. La France ne correspond plus à la valeur de certains, Michel, aujourd'hui.
Non, mais il y a 50 ans, cette question-là que l'on aborde ne se posait pas. Tout simplement parce que les gens étaient dans des trajectoires sociales professionnelles. L'insertion se faisait naturellement par une réussite en classe, donc à des niveaux différents selon évidemment les performances scolaires, et par l'entrée en emploi. Mmh. Hein, de même que blouson noir, on n'était pas membre d'une bande quasiment à vie comme c'est le cas aujourd'hui. On était en bande pour un temps qui précédait le départ au service militaire pour les uns, les fiançailles, l'emploi. Voilà, à partir du moment où une société n'est plus capable d'apporter un rôle à tout le monde, hein, eh bien vous avez ceux qui vont s'engouffrer dans la brèche, voilà, et qui vont apporter évidemment une solution alternative.
Est-ce que précisément ça c'est pas l'écueil de l'hyper-individualisme, parce que c'est pas à la société de trouver pour chacun une voix, c'est à chacun de se trouver sa propre voix. Mais comme en même temps on est venu dire qu'il fallait qu'il ait à nounou et que l'État allait répondre à chacun, on est dans quelque chose qui est une dissonance cognitive complète. C'est-à-dire que d'un côté on surcélèbre l'individu qui doit tout réussir par lui-même, et en même temps un État nounou qui lui dit ah mais attends, si tu y arrives pas on va t'aider. Donc les gens ils arrivent plus à gérer les choses.
Eh bien vous savez, comme dans le milieu politique en 1958 on avait dit il faut rationaliser le parlementarisme. Je crois que par rapport à ce que vous dites, il faut rationaliser l'individualisme. L'individualisme, c'est pas le laisser faire, c'est pas le laisser dire. L'individualisme, c'est peut-être une philosophie progressiste, mais qui s'encadre dans un cadre qui est le cadre social, où effectivement, on ne peut pas être dans des rapports de force au quotidien.
Bah là, les Français, ils en auront le bol. Vous avez vu?
Oui.
Ils en ont marre. Ils veulent, selon les derniers sondages, ils veulent un pouvoir fort. Un pouvoir autoritaire qui pourrait même s'affranchir de certaines règles démocratiques. Et il y a une valeur qui monte de plus en plus dans les sondages, c'est la tranquillité. Donc, faudra pas s'étonner si en 2027, il y a un parti qui arrive au pouvoir en ayant des... Ça veut pas dire qu'il va réussir. Mais les Français veulent de l'ordre dans le pays aujourd'hui. Et quels que soient les niveaux de la population, les niveaux sociaux, Michel Fizet.
Ben c'est là où il ne faut pas confondre les besoins d'une société et les besoins d'un État. Un État peut reposer ou vouloir reposer sur une restauration de l'autorité politique. Alors, ce qui me paraît compliqué, c'est que restaurer une autorité politique, au sens où on pouvait l'entendre dans les années 50, alors qu'on est dans un cadre de fonctionnement quand même démocratique et libéral, ça va être un petit peu compliqué. C'est comme si on voulait remettre aujourd'hui les voitures à cheval pour se dire, bah oui, c'était quand même bien mieux avant, on n'avait pas toute cette circulation. Voilà, donc il faut réinventer probablement une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'être en démocratie, de mieux concilier démocratie représentative et démocratie qu'on appelle participative. Mais il faut surtout encadrer l'individualisme. L'individualisme, c'est pas le laisser dire, c'est pas le laisser faire. L'individualisme ne gomme pas un individu qui doit être aussi un individu social.
Je vais vous faire écouter Mila ce matin, qui était invitée d'Apolline de Malherbe.
J'ai entendu, oui.
Sur RMC et BFM TV. Voilà ce qu'elle disait, Mila. Un vrai coup de gueule, un coup de colère, elle avait la rage.
Je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles. On attend d'elles qu'elles conviennent à ces standards-là qui ne devraient même pas exister. On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte.
C'était chez Apolline de Malherbe. Elle est morte, la laïcité, en France, Michel Fize?
La laïcité, bon, ce serait un débat en soi. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est devenu le problème? Bon, c'est peut-être un petit peu les deux. En tout cas, bon, ce qui est clair, c'est que on ne peut pas accepter, hein, au nom du développement des droits des femmes, de voir réapparaître, notamment chez certains jeunes, cette espèce d'emprise des mâles dominants sur les filles qui seraient par définition dominées. Ça, c'est une culture effectivement moyenâgeuse qui ne peut pas trouver sa place, hein, dans un ensemble démocratique qui est encore la France. Voilà, donc effectivement, Mila a raison de rappeler encore une fois que les jeunes filles sont porteuses de droits et qu'elles n'ont pas à être surveillées, contrôlées par des grands frères. Mais c'est pas nouveau, hein. Il y a 40 ans déjà, on dénonçait, hein, ces grands frères qui se croyaient autorisés à exercer une mainmise sur les...
40 ans après, c'est l'échec, alors.
Voilà, oui.
Parce que c'est encore la mainmise est encore plus étendue.
Et ça donne ce drame. Vous rendez compte, pour une histoire amoureuse, bon, peut-être sexuelle, mais peu importe. Hein, on n'est quand même pas au temps du Moyen-Âge, là aussi. On en arrive à ce drame de Viry-Châtillon. Voilà, c'est bon, ça dépasse un peu l'entendement.
Cette histoire est très intéressante parce qu'elle induit donc que certains une catégorie de la population en France considère que la femme doit être pure. Pudique, je veux dire, cette idée de pureté est une idée d'ailleurs profondément en soi, c'est la base du racisme, hein, l'idée de la pureté. Ces gens-là ont une vision totalitaire puisqu'ils assignent à la fille d'être la représentante de la pureté familiale, de la pureté de la lignée. Donc, je ne comprends même pas comment des féministes ne peuvent pas s'insurger contre cette vision de la femme qui devrait être un corps pur, une âme pure, aux mains
c'est
des
fini.
Hommes.
Merci Michel Fils.
Je voulais que Michel Fils donne
une... 20 secondes.
Non, mais... non, c'est la face sombre de l'islam, hein, naturellement, bien sûr. Il y a aussi des traditions qui ne sont pas conformes aux traditions démocratiques d'une société comme la France.
Merci Michel Fize. La crise morale de la France et des Français, c'est aux éditions Nimesis. Merci d'avoir été dans les chiens, dans les grandes gueules. Demain, Zora Bitant, Jérôme Marty, Jean-Loup Bonamy, le prof de philo, le médecin généraliste, la fonctionnaire seront avec nous. Rémi Barré, le débat continue sur RMC et RMC Story avec vous, bien sûr, au 32-16 entre midi et 15h. Bonjour Rémi.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler de la violence des jeunes, justement. Vendredi dernier, Emmanuel Macron a pris la parole. Il a notamment évoqué la responsabilisation nécessaire des parents. On vous pose la question, violence des jeunes, faut-il faire payer les parents? On vous parlera également de votre argent. 66% des Français sont inquiets de leur situation financière. Ils estiment qu'il leur faudrait près de 900 euros en plus par mois pour être à l'aise financièrement. Et vous, on vous pose la question, est-ce que vous êtes inquiet pour vos finances? Et puis, tiens, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, propose de retenir les téléphones portables à l'entrée du collège. Retenir les élèves déposent leur portable. Et on vous pose la question, nous. Et si on interdisait tout simplement les smartphones aux moins de 16 ans?
Carrément.
Vous nous appelez au 32-16.
Allez, bonne émission avec Rémi. Nous, on se retrouve demain 9h.